Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Jean Frédérics. C'est le deuxième jour de notre série sur le nouvel Homo economicus, cet Homo covidus que nous avons suivi dans les couloirs de l'entreprise hier. Aujourd'hui, nous allons fouiller ses bas de laine. Le confinement a profité aux livrets A, assurances vie et autres comptes d'épargne. En tout, pas moins de 100 milliards d'euros auraient été accumulés par les Français. Un pécule qui suscite la convoitise du gouvernement. Il aimerait voir cette somme réinjectée dans l'économie réelle. L'occasion pour nous de réfléchir aux mécanismes de l'épargne. Est-elle un frein ou au contraire un moteur de la croissance? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons inspecter vos comptes bancaires en compagnie de Florence Legros, directrice générale d'ICN Business School. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
J'ai appris la prudence d'économie dans mon enfance, avec la mère Chevalier à Ménilmontant, vous comprenez. Ménilmontant, c'est un coin où les ouvriers qui ne gagnent pas grand-chose, sont obligés d'économiser en pensant justement à la semaine d'après ou au mois d'après. Et avec la mère Chevalier, il a fallu que j'apprenne tout de suite à être économe parce que comme on avait été très malheureux pendant un ou deux hivers, les premiers petits appointements que j'ai gagnés, ben, nous avons pris tout de suite avec maman la décision de n'en dépenser que la moitié. Et cette idée d'économie ne m'a jamais lâché parce que j'ai toujours eu la grande angoisse de retomber, après tant de travail, après tant de lutte et après tant de combats, de retomber un jour parce que j'aurais été trop imprudent ou trop prétentieux ou trop tape à l'œil, j'ai eu l'angoisse de retomber dans cette misère-là. L'économie pour moi, c'est simplement par prudence et parce que je considère que c'est une vertu qui est vraiment de chez nous, qui est vraiment française.
Bonjour Florence Legros.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait de l'émission Jouons le jeu, diffusée en 1951, un jeu concours au cours duquel les participants étaient jugés sur la sincérité de leurs témoignages. Ici, l'un d'entre eux, Maurice, se défend de sa réputation d'avare. L'économie est une vertu française, nous dit-il. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Alors peut-être ce monsieur d'ailleurs confond-il les économies et l'économie. Et donc c'est intéressant d'ailleurs comme confusion. Alors, les économies, c'est effectivement une vertu, ou enfin une caractéristique française. C'est vrai qu'en France, on a un taux d'épargne qui est particulièrement élevé par rapport à nos partenaires de l'OCDE, et il est historiquement élevé, avec quelques fluctuations, mais il est historiquement très très élevé. Alors, est-ce que c'est une vertu ou un handicap? Je pense qu'on verra ça peut-être un peu plus tard dans l'émission. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait de ces économies et de ce qu'on fait de cette épargne. Alors, peut-être juste avant de passer sur ces emplois de l'épargne, peut-être juste une remarque. Quand on parle avec des collègues anglo-saxons, en fait, souvent, ils nous présentent leur modèle de système de retraite, qui est généralement de la capitalisation, en nous expliquant que c'est une incitation importante à faire de l'épargne. Et c'est très amusant parce que généralement on a du mal à se comprendre. Enfin, on a du mal à se comprendre. Après, on est un peu habitué, mais en fait, là, on voit bien qu'il y a un dialogue de sourds entre les pays anglo-saxons qui sont historiquement des pays où les gens sont endettés. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la situation dans laquelle est le Royaume-Uni aujourd'hui. Hein, l'homo covidus est bien malheureux. Et ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui sont des pays qu'on va qualifier de continentaux. Et donc, ce qui est vrai, c'est que je ne sais pas si c'est une vertu, mais en tout cas, on a peu besoin d'incitation à épargner en France.
Alors, on va revenir sur ce point, et notamment sur le fait que, effectivement, la France est le troisième pays où l'on épargne le plus en Europe, derrière l'Allemagne et la Suède. Mais d'abord, on l'entendait dans cet extrait, Florence Legros, c'est souvent la peur de l'avenir qui pousse à épargner, et c'est ce qui a incité de nombreux Français, ceux qu'ils pouvaient du moins, à mettre de l'argent de côté pendant le confinement jusqu'à aujourd'hui.
Alors moi, je dirais qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu une première période qui est la période du confinement, avec ce qu'on va appeler l'épargne du confinement, ce que certains appellent de l'épargne forcée, c'est-à-dire qu'en fait, les gens n'ont pas pu dépenser autant qu'ils le souhaitaient. Il y a eu un petit rattrapage au mois de juin, notamment sur les biens durables. Mais le fait est que on n'a pas dépensé l'argent du confinement. Et donc on assiste encore à une transformation de cette épargne forcée, l'épargne du confinement, en une épargne de précaution. C'est-à-dire qu'en fait, l'épargne transite petit à petit des comptes courants, qui sont encore bien fournis, vers les livrets divers et variés, et notamment le livret A.
Ce qui interpelle, c'est que cette épargne continue à grossir, et cela même si, comme vous le disiez, la consommation a connu un rebond.
Alors, la consommation a connu un rebond, encore une fois, il n'y a pas eu de rattrapage, mais la consommation reste effectivement relativement atone par rapport à ce que ça serait si on souhaitait tout rattraper. Et une des raisons, effectivement, c'est que les gens anticipent la rentrée de manière assez inquiète. Et là, on va retrouver effectivement probablement les arguments de Maurice 1951, c'est-à-dire de dire on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et probablement à raison, on annonce une reprise assez difficile, enfin une rentrée assez difficile, notamment sur le marché de l'emploi. Et effectivement, là, pour le coup, on assiste à une épargne de précaution qui se met sur des vecteurs liquides, c'est-à-dire effectivement sur des livrets, c'est-à-dire sur des dispositifs qui peuvent permettre de libérer assez rapidement l'épargne.
Mais est-ce que ce n'est pas l'attitude la plus rationnelle finalement d'épargner ainsi par précaution, dans la mesure où la plupart des économistes disent que les conséquences de la crise économique qu'on traverse aujourd'hui vont se faire ressentir encore davantage dans les prochains mois?
Ah, probablement. Alors après, il y a un problème de volume. Ce qui est vrai, c'est que on n'est plus non plus à une époque. Moi, je suis pas une historienne de l'économie, mais j'ai quand même le sentiment que ce qui était décrit tout à l'heure sur 1951 n'est plus trop d'actualité. On a quand même un certain nombre de dispositifs sociaux qui protègent en fait en France relativement bien les individus. Et donc, si on dit toutes les hypothèses, toutes les simulations simulent un retour à la normale à l'horizon 2021-2022, et donc normalement, on devrait avoir éventuellement besoin d'une épargne qui soit relativement courte, mais peut-être pas si abondante que ce qu'elle est aujourd'hui. Et je rappelle que les Français ont déjà une épargne de précaution relativement importante, puisque si on parle des dispositifs d'épargne maintenant, en fait on a une tendance des Français à épargner court et non pas à épargner long, c'est-à-dire qu'il y a peu d'épargne salariale, il y a peu d'épargne retraite et le reste est plutôt de l'épargne liquide, y compris l'assurance vie.
Alors c'est intéressant de remarquer que cette tendance à l'épargne, on la retrouve à chaque crise économique, on l'a retrouvée également à la précédente crise, Florence Le Gros.
Bien sûr, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, la première raison, c'est effectivement cette épargne de précaution, donc qui crée généralement une petite bulle et d'épargne. Et puis il y a la crainte de l'inflation. Donc, un des facteurs déterminants de l'épargne des ménages en France, mais également dans un certain nombre de pays européen ou autre, c'est la crainte de la reprise de l'inflation. C'est ce que les économistes appellent savamment l'effet d'encaisse réelle, c'est-à-dire qu'en fait, si les prix doublent, c'est ce qui est peu probable, mais ça rend les calculs simples, votre pouvoir d'achat relatif va se retrouver divisé par deux à salaire identique. Et donc, pour faire face à vos dépenses dont le prix va augmenter alors que votre salaire relatif va diminuer, en fait, vous allez mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire face à ces dépenses. Donc ça, c'est un déterminant assez constant sur le long terme des décisions d'épargne. Donc à l'épargne de précaution avec les difficultés de l'emploi va se superposer la crainte d'une reprise de l'inflation.
C'est ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une vraie crainte.
Très clairement, pourquoi? Parce que donc tout le monde sait que les déficits publics ont cru et donc quand les déficits publics croissent, alors c'est beaucoup à la main de la Banque Centrale Européenne, notamment depuis ces derniers temps. Néanmoins, quand les déficits publics croissent, généralement ça crée des tensions à la hausse pour les taux longs et généralement ça crée également des tensions inflationnistes. Et donc du coup, et on le répète, on l'entend assez, on dit voilà, donc d'ailleurs avec ce raisonnement économique là, mais également avec des raisonnements économiques qui sont des raisonnements post-Covid, avec par exemple les mesures d'hygiène, voilà, votre coiffeur a probablement augmenté ses tarifs de 10%. Et donc cette repli, il y a une crainte de la reprise de l'inflation qui peut également motiver une épargne plus abondante.
On le disait, les Français ont tendance à beaucoup épargner, ce qui peut effectivement étonner, puisque vous le disiez, on a à la fois un système de sécurité sociale peut-être le plus abouti de l'OCDE, et en même temps, peut-être que ce qu'on constate, c'est que les Français finalement anticipent une dégradation de ce système. Si on se situe plus sur le temps long,
alors si on se situe plus épargne. Sur le temps long, c'est assez vrai, assez paradoxal, parce que en fait, les Français, quand on les interroge, hein, expliquent quelquefois que effectivement, ils ont un doute sur la pérennité du régime de retraite, notamment, et donc, et pour autant, on n'assiste pas à une ruée vers l'épargne retraite. Hein. Mais ça tient aussi au gouvernement, enfin au gouvernement S, et notamment en France, où l'État est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, on va favoriser fiscalement la détention du livret A, on en a déjà parlé, donc on voit bien que comme instrument d'épargne de précaution, c'est bien pratique, mais va également favoriser l'assurance vie, et notamment en euros, parce que ça va servir à financer la dette publique. Et puis d'un autre côté, publie une loi qui s'appelle la loi Pacte pour l'avenir des entreprises, l'avenir et la compétitivité des entreprises, en disant il faut dévier l'épargne vers les entreprises, vers le système productif. Et donc pour dévier cette épargne vers le système productif, on va créer de l'épargne longue, c'est-à-dire de l'épargne retraite et de l'épargne salariale. On va supprimer l'ISF, parce que c'est bien ça, hein, la suppression de l'ISF, c'est de dire on ne va pas taxer ce qui est patrimoine en action pour favoriser ce passage direct de l'épargne aux entreprises. Quand une entreprise augmente son capital en action, ça lui coûte quand même moins cher que d'intermédier par la voie bancaire. Mais à la fois, on a toujours ces systèmes d'épargne qui sont plutôt des liquides et qui ne sont pas des systèmes d'épargne qui favorisent le financement direct des entreprises.
Un dernier mot, Florence Legros, sur cette épargne que l'on constate depuis le début du confinement. Il faut quand même préciser que, effectivement, cette épargne ne concerne pas tous les Français et qu'il y a d'assez grandes disparités entre ceux qui peuvent épargner et les autres.
Oui, mais ces disparités sont des disparités qui ont très bien été décrites et qui sont probablement accentuées depuis Keynes. Mais effectivement, plus votre revenu est important, plus votre propension à épargner est forte.
Et donc là, on a constaté que c'était plutôt les Parisiens que le reste de la France qui avait épargné, plutôt les CSP+.
Plutôt les Parisiens cadres qui sont habitués à aller au restaurant, au spectacle et en vacances. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais c'est un petit peu ça, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a effectivement des disparités, il y a des disparités d'épargne qui sont fortes, oui.
Qu'est-ce qui pousse les gens à épargner, Florence Legros? C'est un sujet qui intéresse les économistes depuis longtemps.
Oui, oui, ça intéresse effectivement les économistes depuis longtemps. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui pousse à épargner. Donc, on a déjà évoqué un certain nombre de principes. Il y en a bien d'autres. Et qu'est-ce qui pousse à épargner et la manière dont ils épargnent. Alors, qu'est-ce qui pousse à épargner? Donc, on a pu aborder un certain nombre de théories, même sans le dire. Vous parliez d'épargne retraite, c'est typiquement la théorie du cycle de vie. Hein, donc, la théorie du cycle de vie, j'épargne quand je suis actif, et le jour de ma retraite, je commence à désépargner quand je suis à la retraite.
Oui, l'âge joue un rôle très important.
L'âge joue un rôle très important.
Ou à épargner.
Sauf qu'il y a des hypothèses qui sont extrêmement fortes, puisque dès que vous intégrez un héritage ou la volonté de legs, hein, si vous voulez léguer quelque chose à vos enfants, vous n'allez pas complètement désépargner. Et surtout, si vous intégrez une assurance sociale retraite après l'âge de départ à la retraite, donc vous allez un peu bousculer cette théorie. Il y a d'autres théories comme les addictions à la Friedman, hein, c'est-à-dire que en fait, si vous pouvez... donc il décrit des addictions à certaines consommations qui font que, pas uniquement des consommations interdites d'ailleurs, et qui font que, en fait, le jour où vous avez précisément moment une baisse de revenus, vous pouvez plus vous livrer à cette consommation qui vous remplissait tant de plaisir, et du coup en fait vous êtes éventuellement incité à épargner pour faire face à ces consommations. Il y a les effets de démonstration, hein, c'est-à-dire que votre meilleur ami gagne 5 fois comme vous, vous allez vouloir consommer exactement comme elle, et là vous allez évidemment désépargner.
Sur l'effet de démonstration, je voudrais qu'on prenne un exemple concret pour bien comprendre. Dans le film des frères Dardenne, 2 jours, 1 nuit, sorti sur les écrans en 2014, Sandra, alias Marion Cotillard, est employée dans une entreprise de panneaux solaires, et lorsqu'elle revient d'un long arrêt maladie pour dépression, son patron soumet les employés à ce choix. Soit Sandra est réintégrée dans son poste, soit ils obtiennent tous une prime de 1000 euros pour le supplément de travail effectué en l'absence de Sandra, et cette dernière sera licenciée. Dans l'extrait que vous allez entendre, la jeune femme cherche à convaincre l'une de ses collègues de renoncer à ses 1000 euros. Écoutez.
Bonjour.
Ça fait longtemps.
On pourrait se voir 5 minutes.
Oui, je veux bien, mais je suis pressée, on doit aller chez... Dis-moi vite.
Alors, je voulais te demander si tu serais d'accord de voter pour que je reste.
Mais je veux bien, mais si je vote pour toi, moi, je perds ma prime.
Mais c'est pas moi qui ai décidé ça.
Non, mais c'est pas moi non plus. Les autres, ils acceptent de perdre leur prime?
Bah, pour l'instant, il y en a 3. Il y a Juliette.
Oh, Juliette, c'est facile, son mari répare les bagnoles au noir. Moi, je peux pas, tu comprends? Tu sais peut-être pas, mais j'ai quitté mon mari et avec mon copain, on doit repartir à zéro, tout à zéro. Meubles, télé, lit, machine à laver, vaisselle, tout. On doit tout acheter. Tu vois, je peux pas me permettre de perdre 1000 euros, tu comprends? Il faut pas m'en vouloir, mais je peux pas.
Non, mais je t'en veux pas.
Florence Legros, qu'est-ce que cet extrait nous dit des choix de consommation des ménages modestes quand un supplément de revenus arrive ainsi de façon ponctuelle, une prime par exemple ?
Ça serait un peu facile de dire que parce qu'ils sont modestes, ils ont envie de 3 postes de télé grand écran. Non, c'est effectivement, on vit probablement dans l'effet de démonstration, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la ménagère du 21e siècle ou le ménager d'ailleurs a une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le linge, une télé grand écran, une voiture, etc. Et effectivement, c'est s'inscrire dans un environnement socialisé, enfin d'avoir effectivement un certain nombre de biens. Donc c'est effectivement un peu cet effet de démonstration qui est là pour le coup un effet de démonstration collective. Et donc effectivement, à la fois pour arriver à 1000 euros par mois, 12 000 euros, il faut qu'elle renonce à un paquet de choses.
Et c'est cette volonté d'afficher un certain niveau de vie qui explique, par exemple pour l'économiste Simon Kuznets, que l'épargne diminue, la tendance à l'épargne va diminuer lorsque les inégalités de revenus augmentent.
C'est presque un effet dynastique, c'est-à-dire que en fait vous allez essayer de rattraper la classe sociale qui est devant en ayant à peu près la même chose. C'est quelque chose qui est assez courant sur l'éducation des enfants. C'est peut-être plus facile à dire ou à concevoir comme ça. C'est dire je veux que mes enfants soient mieux que moi et je veux que mes enfants soient mieux que moi parce que je veux effectivement qu'ils vivent aussi bien que les autres. Donc, et vivre aussi bien que les autres, c'est vivre aussi bien que effectivement une classe sociale que vous enviez un peu et qui va en week-end une fois sur deux, etc. Donc, c'est probablement un mouvement assez naturel qui est lié au progrès social et également à l'aspiration des gens à être mieux.
Et qu'est-ce qu'on peut dire de la stabilité ou non des comportements d'épargne et de consommation? Est-ce que il faut considérer que cette stabilité existe? Et c'est par exemple ce que considérait quelqu'un comme Milton Friedman, qui lui du coup estimait qu'une hausse ponctuelle de revenus, comme cette prime qui donc est ponctuelle, c'est pas 12 000 euros, ça sera que 1000 euros une fois, cette hausse ponctuelle de revenus n'entraînait pas de hausse de la consommation.
Oui, non, c'est l'idée que c'est un revenu transitoire et que effectivement que le revenu transitoire n'est pas ne modifie pas la tendance structurelle effectivement à la consommation effectivement. Alors, quand on regarde la stabilité ou le taux d'épargne en France, effectivement, on se voit qu'il se stabilise relativement haut. Après, la consommation particulière des primes, etc., je suis pas sûre, alors qu'il y a des études qui soient particulièrement faites là-dessus, mais de manière générale, elles sont plutôt assez récurrentes. L'exemple des frères Dardenne est quand même très particulier. Donc, généralement, les gens, il n'est pas interdit de penser que les gens ont intégré leurs primes. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vous disent c'est un 13e mois. Ils vous disent pas c'est une prime. Et donc, qu'ils l'ont intégré dans leur plan de consommation.
Quels sont les risques pour l'économie lorsque l'épargne forcée ou accidentelle se transforme en épargne de précaution, Florence Le Gros?
Le risque, c'est qu'il ne soit pas transmis aux entreprises et que effectivement, on est cette bulle qui se crée sur les livrets A ou sur les autres livrets ou sur tous les livrets possibles et imaginables, et sur de l'épargne qui serait de l'épargne liquide, voire qui reste sur les comptes en banque. On parle beaucoup de l'épargne effectivement de précaution en France. On disait tout à l'heure qu'il y a eu un gonflement des comptes courants qu'on avait vu se bouger vers les livrets de caisse d'épargne. Mais en France, on a également des sommes absolument énormes sur nos comptes courants. Donc, alors ces sommes font le bonheur de l'État et des banques.
Et, dans quel sens?
C'est de l'argent pas cher, donc vous laissez 100 000 euros sur votre compte en banque, franchement, non rémunéré, donc c'est plutôt de l'argent pas cher. Encore une fois, le paradoxe de cette épargne, c'est qu'elle ne se dirige pas forcément vers les bons canaux. Et on parlait tout à l'heure donc de ce qui déterminait l'épargne. Et on disait qu'il y avait deux choses. Il y avait la formation de l'épargne et l'allocation des flux d'épargne. L'allocation des flux d'épargne, étudier l'allocation des flux d'épargne, c'est pas forcément étudier uniquement ce qui va sur le livret A, etc., etc. C'est depuis Modigliani, Miller, c'est aussi une étude de l'aversion au risque des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont préférer aller vers des actions, selon leur aversion au risque, quelle va être la part de leur portefeuille qu'ils vont mettre en liquidité, en actions, en obligations, etc.
Et donc, on peut voir des variations au cours du temps, en l'occurrence sur l'aversion au risque des Français.
Alors, il y a des spécialistes, hein, il y a mon ami Lucas Rondel qui étudie ça depuis des années et qui dit en gros que les préférences ne changent pas. C'est-à-dire que en fait, on est dans l'aversion au risque des gens est plutôt quelque chose de relativement stable, mais que ce sont les circonstances, hein, c'est l'environnement qui va pousser les gens à agir différemment.
Et par exemple, la chute de la bourse qu'on a pu observer au moment du confinement, qui a poussé beaucoup de nouveaux boursicoteurs à entrer et à investir dans la bourse.
Par exemple aussi les politiques gouvernementales en faveur de l'épargne et donc la fiscalité de ce point de vue-là a un rôle à jouer qui est tout à fait considérable.
Donc, comme vous le disiez, la transformation de l'ISF en un impôt sur la fortune immobilière.
Exactement, ou tout simplement le fait d'avoir un livret A qui est un produit liquide, qui ne va pas vers les entreprises, qui était fait jadis pour financer les HLM, ce qui est probablement plus beaucoup le cas, et donc qui en fait ne va pas vers les entreprises et qui en fait de l'argent hyper liquide, et donc ça économiquement c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à justifier.
Ce qui inquiète apparemment le gouvernement français, c'est que cette épargne se fasse au détriment de la consommation, bien sûr. Est-ce que c'est particulièrement problématique en France où la consommation représente une part importante du PIB?
Non, alors en fait la consommation c'est 53% du PIB en contribution en France, de mémoire Royaume-Uni 65. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la comparaison entre le Royaume-Uni et la France ou le reste de l'Europe. Et donc, Royaume-Uni a vu donc son PIB baisser de 20% au deuxième trimestre. Et très clairement, c'est dû justement à cette forte part de la consommation dans le PIB britannique.
Contre 14% en France environ. Pour avoir voilà. un ordre d'idée.
Exactement. Et donc, ils sont un peu plus de 20% de chute. Ils ont moins baissé au premier trimestre parce qu'ils n'étaient pas confinés. Ils ont retardé un peu le confinement. Mais du coup, ils ont été beaucoup plus durement confinés. Et donc, moins 20%. Donc, une baisse qui est tout à fait importante et qui est due à deux choses. Un, le fort taux d'endettement des Britanniques. Et là, on revient sur votre première question. Est-ce que c'est une vertu d'avoir de l'épargne? Parce que pour le coup, on est moins touché à cause de ça. Et deuxièmement, la part de la consommation dans le PIB. Alors, en France, on est donc un peu en dessous. Et mais c'est cette augmentation, en gros, en Europe, on est à entre 3 et 5 points de taux d'épargne en plus. Hein, voilà, pour si vos 100 milliards de tout à l'heure, je les transforme en points. Et donc, ça
en France par rapport au reste de l'Europe.
En Europe par rapport à l'année N-1.
Alors, pardon.
Par rapport à l'année N-1, par D'accord. rapport au trend usuel. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que les Allemands sont très très inquiets de cette hausse du taux d'épargne, et donc ont décidé une baisse temporaire de la TVA sur les produits de consommation, donc pour pouvoir relancer la consommation.
On va en parler bien sûr dans un instant, et aussi de ces 100 milliards d'euros d'épargne que les Français auraient accumulés pendant le confinement. On va se demander effectivement que faire de cette somme colossale, et plus largement, est-ce que la hausse de l'épargne est une chance ou un danger pour l'économie? Élément de réponse dans un instant.
On we ain't really gotta lie, yo. I'm a type of motherfucker that'll check the check, do the math, I ain't never getting robbed. Those margaritas not going on my card. I ain't about to split a damn thing for convenience sake. I'm at the restaurant working that way. Holla, you ain't heard a Lil Day, young L, the Jew, biz major. Fuck you know about the world he raised in. I've been saving money since a motherfucker 13. I wear the same pair of jeans every day. Sandwiches, homie, two stamps away. Book flight December, but I leave in May. Drugs are generic, but still work the same. I get logins for Netflix from my cousin Greg. Thanks, Greg.
Save That Money de Lil Dicky. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous parlons des mécanismes de l'épargne en compagnie de l'économiste Florence Legros. Alors l'épargne est-elle nocive pour l'économie? Non, estiment les économistes classiques, car pour eux, l'épargne permet de financer l'économie réelle, Florence Legros.
Ça dépend des... Effectivement, ça revient... Enfin, c'est toujours la même question. Si... Alors, ça la finance... indirectement, de toute manière, puisque après, enfin, si vous mettez votre argent à la banque ou si vous allez chez un assureur et que vous achetez des fonds en euros, à un moment, c'est transformé. Mais ça va être transformé en obligation d'État, par exemple. Donc, en gros, ça va être transformé en dette publique. Et donc, ça va servir à financer la dette publique. Donc, à nouveau, bon, là, c'est un peu... Alors effectivement, ça va dépendre de ce que vous faites de la dépense publique, si vous investissez, mais enfin, on n'en est pas à ça de raffinement. Donc, il y a des gens qui disent que tant que le déficit public sert à financer des investissements et de l'éducation, c'est pas vraiment du déficit.
Mais ce qu'on comprend bien, c'est qu'effectivement, le problème, ce n'est pas l'épargne en soi, mais la façon d'épargner, c'est-à-dire le type de placement, en fait, que l'on effectue.
C'est le type de placement. Le type de placement, et donc un placement... on distingue généralement ce qu'on va appeler les placements longs et les placements courts. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément clair. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'une action est un placement long et pas court? C'est que, en fait, statistiquement, quand on regarde les rendements des actions, des obligations et des actifs monétaires, qui sont en gros les trois types d'actifs qui existent dans l'économie, et quand on regarde leur rendement réel, c'est-à-dire qu'évidemment, on retire l'inflation, en fait, on s'aperçoit que le seul placement sans risque, ce sont les actions. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, si vous voulez placer sans risque, achetez des actions. Simplement, le problème, c'est donc avec un actif monétaire et avec un actif obligataire. Et donc, ça, c'est des études qui ont été faites en remontant très, très... enfin très très loin, puisque enfin bon, on a en particulier fait une étude avec deux co-auteurs, Stéphane Amaillon et Yannick Prada, en remontant tous ces cours depuis 1895. Et donc là, on a un peu de données. Et donc là, ce qu'on montre, c'est que avec des actifs monétaires ou avec des actifs obligataires, vous perdez toujours un peu, puisque en fait, vous avez toujours, en termes de rendement, vous avez une probabilité de perte, très exactement, qui est toujours positive sur l'ensemble de la durée. Alors que, en fait, si vous êtes investi en actions, en fait, en France, sur les actions françaises, au-dessus de 26 ans de détention, et c'est conforté par les données américaines, au-dessus de 20 ans de détention des actions américaines, vous avez une probabilité nulle de perdre de l'argent. Dividende réinvesti. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre PEA, vous le gardez pendant au moins 26 ans, vous prenez la précaution de réinvestir vos dividendes à chaque fois qu'il y en a, et en fait, vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent. Donc, voilà pourquoi on parle de placement long.
Mais alors, ce n'est pas du tout ce qu'on a constaté, comme on commençait à le dire dans la première partie de l'émission. Les Français ont privilégié l'épargne liquide, c'est-à-dire mobilisable immédiatement, alors même qu'avec les taux d'intérêt négatifs, en faisant cela, ils perdent de l'argent.
Ah ben bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'en fait, là, la préférence pour la liquidité, la préférence pour la liquidité l'emporte. C'est-à-dire qu'en fait, ils préfèrent avoir de l'argent qui soit immédiatement disponible. Ça, c'est pas compliqué. Vous allez à la machine, à l'ATM, puis vous allez vous récupérer votre argent. Et donc, plutôt que de prendre de l'épargne retraite ou encore une fois de l'épargne salariale, où c'est un pair, hein, donc, et puis de s'engager sur une longue période.
Et jusqu'à quel point, pardon de vous couper, mais c'est un choix en conscience. C'est-à-dire que les gens ont conscience qu'ils perdent de l'argent en mettant leur argent sur la livret A, sur leur compte courant. Mais finalement, c'est un choix rationnel parce qu'on se dit qu'il vaut mieux que cet argent soit effectivement disponible immédiatement.
Alors, je pense que effectivement, donc c'est le principe de l'épargne de précaution, c'est-à-dire qu'ils anticipent plutôt des difficultés à court moyen terme, c'est-à-dire cet automne et l'année prochaine, plus que des difficultés à long terme. Ce qui prouve d'ailleurs, pour rebondir sur une question qu'on a abordée rapidement tout à l'heure, c'est qu'ils ont quand même une relative confiance dans leur système de retraite. Et donc, ce qui d'ailleurs est complètement, ça se voit sur le fait qu'il n'y a pas d'investissement massif, de détournement massif de l'épargne habituelle vers l'épargne retraite. Mais c'est vrai qu'alors là, pour le coup, c'est pas du tout la même destination. Mais le socle habituel d'épargne, on va dire le truc qui se situe entre 14-15% du revenu disponible des ménages, donc qu'on peut appeler le stock structurel de l'épargne française, en fait, celui-là, on ne voit pas d'obstacle à ce qu'il soit transformé en épargne longue. Autant cette épargne du confinement transformée en épargne de précaution, on peut le comprendre, mais de fait, elle vient se surajouter à une épargne qui est déjà trop liquide.
Et alors peut-être que ce qui bloque, c'est l'inquiétude par rapport au risque. En effet, on parlait tout à l'heure de l'aversion au risque, une inquiétude qui a peut-être largement augmenté depuis 2008.
Depuis 2008, très exactement, bien sûr. C'est-à-dire que l'inquiétude a augmenté, c'est-à-dire que les gens ont pris conscience, quelquefois de façon assez violente, ce n'était pas garanti par l'État. Le fait est que très probablement aussi, donc je n'irai pas dire, puisque en fait c'est faux, que l'éducation financière des Français est insuffisante, je dirais probablement que leur information financière est peut-être insuffisante. C'est-à-dire que je pense que le discours qui dit que sortez dans la rue et expliquez que le seul placement à long terme sans risque, c'est les actions, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont vous regarder bizarrement. Et pour autant, ils sont éduqués financièrement, ils savent ce que c'est qu'un taux d'intérêt, ils savent calculer, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'il y a un problème aussi d'information financière.
Et est-ce qu'on constate par exemple en Allemagne une meilleure information financière qui expliquerait peut-être qu'en Allemagne, c'est en tout cas le sentiment que qu'on a, vous allez me dire si c'est vrai, l'épargne est un levier important de financement de l'économie et c'est une force pour l'économie allemande.
Alors la force, une des forces pour l'économie allemande, ça c'est mon opinion, elle est peut-être pas partagée par tout le monde, c'est que les Allemands ont été habitués depuis très longtemps à un système qui s'appelle les book reserves et donc qui est une forme d'épargne retraite où les gens investissaient directement dans leur entreprise, c'est-à-dire qu'en fait ils devenaient actionnaires de leur entreprise. Et donc l'idée de ces entreprises allemandes, alors c'était à l'allemande, hein, très bien organisé avec une réassurance. Donc il y avait une caisse qui s'occupe de la réassurance au cas où l'entreprise fait faillite. D'ailleurs, ça a été le cas d'une entreprise très connue qui s'appelle AEG, qui a fait faillite dans les années 80, de mémoire 80-90, et en fait les salariés ont tous été indemnisés ou quasiment totalement indemnisés. Donc les salariés allemands ont été habitués à ce type d'épargne. Et moi, il me semble que c'était relativement vertueux. D'abord parce que c'était une façon pas chère pour les petites entreprises de se financer, parce que en fait l'idée c'était de pas aller à la bourse. Enfin, je veux dire, toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'être cotées en bourse. Et en plus, c'était une manière d'inciter les salariés à participer à l'expansion de leur entreprise. En France, c'est un peu l'équivalent du PE.
Alors, ce qu'on constate tout de même, Florence Legros, c'est que il y a une forme d'épargne qui, pour le coup, est jugée absolument inutile par les économistes classiques. C'est la thésaurisation, c'est elle qui a été pointée du doigt de longue date.
Ah bah c'est inutile effectivement pour les épargnants, c'est-à-dire que enfin c'est inutile effectivement.
C'est peut-être plus inutile pour l'économie d'ailleurs que pour les épargnants eux-mêmes.
Pas forcément, parce que encore une fois, de l'épargne disponible non rémunérable pour une banque, je suis pas sûre que la transformation bancaire y trouve pas un tout petit peu son intérêt. Mais pourquoi est-ce que c'est la seule épargne qui serait inutile? Ça fait très longtemps que je me suis pas intéressée aux besoins de liquidité de la section générale de la Caisse des dépôts, mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui les HLM aient un besoin de prêts mobilisables auprès de la Caisse des dépôts qui soit massif. On est quand même dans une période de taux courts. Je suis pas certaine.
Parce que c'est l'argent, il faut peut-être préciser que c'est l'argent qui est placé sur le livret A, qui permet notamment de financer les HLM.
Exactement. Et donc, en période de taux courts, il est pas certain que un taux privilégié soit vraiment si privilégié que ça. Et donc, c'est de l'argent qui est défiscalisé. Là, à nouveau, ça coûte peut-être un petit peu cher. Et on peut se demander également quel est l'intérêt de... Alors, je sais que c'est pas tout à fait politiquement correct de dire ça, parce que les Français semblent très attachés à leur livret A.
22 milliards accumulés sur le livret A depuis le début de l'année.
Voilà. Et en revanche, ce qui est plus que probable, c'est que ça soit pas d'une utilité centrale.
Ça finance, donc on l'a dit, la construction de logements sociaux, mais aussi un certain nombre de PME.
J'aimerais bien savoir ce qui est transformé aujourd'hui. J'ai pas du tout les chiffres en tête, je dis ça, mais en période de taux courts, j'aimerais bien savoir ce que... Enfin, je suis pas certaine.
Douter de cette utilité. Et les Français ont également continué à alimenter leur contrat d'assurance vie à hauteur de 17 milliards d'euros depuis le début de l'année. Là, il s'agit d'argent qui est moins liquide.
C'est pas tout à fait vrai. L'assurance vie est relativement liquide. Donc les avantages fiscaux, c'est au bout de 8 ans, mais vous pouvez déboucler de façon assez rapidement. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui débouclent leur contrat d'assurance vie de façon assez rapide.
Ce n'est pas de l'argent qui circule davantage, l'argent de l'assurance vie, pour justement financer l'économie réelle?
Bah pas exactement, parce que d'abord il y a beaucoup d'assurance vie qui est en euros. Donc l'assurance vie en euros, elle est investie majoritairement en obligations. Il faut avoir de l'assurance vie en unité de compte pour qu'il y ait une part en action. Et encore faut-il que cette part en action soit pérenne. C'est-à-dire que si la part en action est pas bloquée pendant très longtemps, et donc c'est pas exactement le cas dans l'assurance vie, en fait, on a un financement de l'économie qui est pas nul, c'est absolument certain, mais qui est moins stable qu'avec de l'épargne longue.
Je voudrais vous faire entendre un texte, Florence Legros, de Keynes, car pour les économistes classiques, l'épargne est positive également au sens où elle constitue une consommation différée. Or, Keynes répond que c'est faux dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui a été publiée en 1936. Je vous propose d'écouter cette explication.
Un acte d'épargne individuel signifie, pour ainsi dire, une décision de ne pas dîner aujourd'hui. Mais il n'implique pas nécessairement une décision de commander un dîner, ou une paire de chaussures, une semaine ou une année plus tard, ou de consommer un article déterminé à une date déterminée. Il produit donc un effet déprimant sur l'industrie intéressée à la préparation du dîner d'aujourd'hui, sans stimuler aucune des industries qui travaillent en vue d'un acte futur de consommation. Il ne consiste pas dans la substitution d'une demande pour la consommation future à une demande pour la consommation présente, mais seulement dans une diminution nette de cette dernière demande. En outre, la prévision d'une consommation future est si largement fondée sur la connaissance d'une consommation présente que toute réduction de celle-ci est susceptible de nuire à la première. Dans ce cas, il contracte la demande en vue de l'investissement actuel, aussi bien que la demande en vue de la consommation actuelle.
Un texte lu par Romain Debecq-Delièvre. Qu'est-ce que cet extrait nous dit du rapport de Keynes à l'épargne, Florence Legros?
Il nous confirme surtout que Keynes est un économiste de la demande. Et donc, vous noterez qu'il ne parle pas des entreprises, ou très peu, enfin, sauf celles qui préparent le dîner. Et donc, c'est très juste. Je veux dire, vous restreignez votre consommation aujourd'hui. Pour autant, vous n'allez pas la reporter demain, ce qui n'est pas la vision du cycle de vie dont on a parlé tout à l'heure. Mais bon, et donc vous restreignez votre demande aujourd'hui, peut-être pas pour la reporter demain. Le problème est que alors vous avez parlé tout à l'heure des économistes de l'offre, Friedman, etc., pour lesquels en fait il faut faciliter la vie des entreprises et donc notamment l'épargne va servir à nourrir les entreprises. Très probablement, il faut prendre un peu des deux, c'est-à-dire comme d'habitude, c'est-à-dire que Keynes a totalement raison, et d'ailleurs on le voit, on a encore cité l'exemple britannique tout à l'heure, le fait d'avoir restreint cette consommation de façon massive, brutale, en fait a des effets dépressifs sur la croissance.
Il y a un risque de crise de surproduction par exemple. Ou simplement de chômage qui entraîne à leur tour un risque de moindre consommation.
Bien sûr, vous avez un choc de demande. Vous avez un choc de demande. Donc le choc de demande, c'est effectivement un risque de chômage. Je veux dire, le plus évident, c'est le restaurant. Donc les hôtels-restaurants sont restés fermés pendant plus de 2 mois. Donc vous avez un choc de demande. Il y a plus de demande envers les restaurants. Et donc vous avez un certain nombre de personnes de ces industries qui sont très très marqués, et enfin d'ailleurs c'est encore eux qui sont dans les taux d'impayés faramineux sur les charges sociales encore aujourd'hui. Donc Pierre, c'est un choc de demande. Alors si on continue le multiplicateur keynésien, on le voit bien, c'est-à-dire que choc de demande, ils payent plus leurs charges sociales, 35% d'impayés, et l'État est en difficulté. Donc on voit bien qu'il y a une chaîne qui est tout à fait défavorable. À la fois, pour autant, enfin je veux dire, les entreprises ont besoin d'argent, et donc elles ont besoin d'argent, elles vendent leurs produits, et il faut qu'elles se développent, et pour qu'elles se développent, on est dans des économies qui sont concurrentielles, et surtout, sans parler de concurrence, enfin je veux dire, on est dans une révolution qu'on qualifie souvent d'une révolution verte, c'est des investissements qui coûtent cher, c'est des investissements qu'il faut faire, et donc une entreprise qui peut pas émettre d'actions et qui peut pas avoir d'argent frais pour faire ces investissements verts est condamné à ne pas les faire et à terme ne plus être concurrentiel dans une économie qui va se verdir de plus en plus.
Alors si l'excès d'épargne ou la mauvaise épargne entre guillemets risque d'entraver la reprise, comment inciter par exemple à la consommation? Vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne qui a fait le choix de baisser la TVA. La TVA va donc passer en Allemagne de 19 à 16%. C'est une bonne stratégie selon vous?
C'est probablement une des stratégies les moins perverses qu'on peut observer. Augmenter les impôts sur l'épargne, ce qui a été évoqué à un moment en France, on a même parlé d'un retour à l'ISF, avec une explication qui était un peu curieuse, qui était dire oui, il faut favoriser les dépenses vraiment utiles, ce qui n'est peut-être pas très heureux, et donc taxer l'épargne pour la diminuer. Enfin, il semble que ça soit pas une très très bonne idée, parce que c'est pas parce qu'elle est mal orientée qu'il faut la taxer. On va taxer laquelle? On parlait tout à l'heure des disparités de taux d'épargne entre classes sociales. Donc on va dire, ah bah oui, on va taxer l'épargne. Ah non, peut-être pas les actions, parce que bon, et donc ça va créer des inégalités importantes, ça va être très très compliqué.
Sachant que ça va se reporter, l'épargne va se reporter d'un compte à un autre.
Et puis ça va être très très difficilement réversible. Alors que la baisse du taux de TVA semble, enfin là pour le coup, vous avez un choc d'offres qui est créé dans l'autre sens. Donc vous répondez au choc de demande par un autre choc en disant je baisse les prix de façon massive. C'est en gros de 4 points, ce qui est beaucoup. Et donc et puis vous espérez que les gens vont en profiter pour consommer. Et l'idée c'est de faire quelque chose de temporaire. Donc c'est les Allemands le disent très clairement. Donc c'est temporaire et c'est le temps qu'on ait un retour à la normale de la consommation.
Il faudra voir si effectivement, ça entraîne en Allemagne une hausse de la consommation. Alors, quelles sont les autres pistes pour relancer justement cette consommation en France? Certaines entreprises, comme la plateforme de vente en ligne Groupon, ont développé une certaine expertise sur le sujet. Écoutez son fondateur, Paul Chopin de Chanvry.
L'idée de Groupon, c'était l'achat groupé à l'origine. Plus on est nombreux, moins on paye cher.
Paul Chopin de Chanvry.
Nous, notre métier, c'est d'aller chercher le client et d'aller lui proposer directement ses offres. Donc on va créer de l'achat d'impulsion. Tous les matins, il va recevoir un mail où il va avoir un catalogue de bonnes affaires du quotidien. Un restaurant, un coiffeur, un centre de beauté, mais aussi un musée, un parc de loisirs. Et il va pouvoir picorer dans cette sélection d'offres qu'on lui propose tous les matins.
Ça veut dire quoi, un achat d'impulsion?
On essaie de répondre à la question « pourquoi pas ?». Tiens, ce restaurant qui est juste à côté de chez moi, je passe devant tous les matins, j'y suis jamais allé. Et un jour, je reçois un mail de Groupon qui va dire « ce restaurant propose un menu avec moins 30, moins 40% de réduction ». Et là, on se dit « bah à ce prix-là, je vais tenter l'expérience ». Donc on crée l'impulsion grâce au prix. Puis c'est surtout, on le sait, c'est des dépenses du quotidien qui sont les plus impactées quand il y a des crises économiques, etc. Et en dépensant 30% ou 20% de moins pour aller au restaurant, bah, on peut y aller plus souvent, où on va commencer à pouvoir en profiter à plus nombreux, en famille, et ça permet d'avoir toujours ce même niveau de consommation de produits de loisirs.
La méthode de Groupon pour inciter à la consommation, je vais vous faire réagir Florence Legros, mais en même temps vous posez cette question qui est comment on incite à plus de consommation dans un contexte de transition écologique, avec cette idée qu'au contraire il faudrait peut-être parfois impulser une sorte de déconsommation.
C'est une question difficile. Donc, déconsommation, je sais pas. Peut-être l'idée, c'est de consommer un peu différemment ou de consommer mieux. C'est ce qu'on a dit. À cet égard, on en a beaucoup parlé là avec la crise de la Covid. Encore une fois, c'est peut-être différemment plutôt que plus. Mais si je reviens sur Groupon, c'est pas nouveau. Hein, donc c'est quand même des centrales qui existent depuis très très longtemps. On reçoit tout ça, hein, bricot privé, machin, enfin. Hein. Et donc
ce sont des méthodes qui marchent.
Ce sont des méthodes probablement qui marchent. Enfin, il y a quand même une limitation qui s'appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que voilà. Puis une fois que vous avez acheté 5 tondeuses à gazon, ça va bien. Et donc
dans un très très grand jardin.
Et donc le restaurant, ça marche un petit peu mieux, mais ça se heurte quand même. Et là, en fait, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que là, on est dans une situation qui est extrêmement différente de celle d'avant, où en fait, d'abord les restaurants ont été fermés pendant très très longtemps, donc l'image marche moins bien. Et surtout, là, on a besoin ces dispositifs que je vais appeler durables, c'est-à-dire qui existent depuis des années. Donc probablement, il faudrait savoir s'ils ont beaucoup plus de succès en ce moment, c'est possible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin effectivement d'une impulsion, probablement une impulsion nationale, qui soit temporaire, avec un message très simple, hein, c'est en fait, il faut relancer cette économie. Alors après, que les gens dépensent leur allègement de TVA sur tel ou tel produit, on peut toujours effectivement espérer qu'ils peuvent consommer un peu différemment, voilà, c'est privilégier les circuits courts, que sais-je encore.
On peut d'un côté effectivement inciter à plus de consommation et de l'autre, on peut aussi flécher l'épargne des Français vers le financement des entreprises. Il y a un certain nombre de pistes qui sont à l'étude, mais là encore, l'enjeu majeur, c'est de parvenir à recréer la confiance, Florence Legros.
Oui, bien sûr, créer la confiance et créer les conditions favorables. Si les gens avaient l'habitude de flécher leur épargne vers les entreprises, après on pourrait effectivement raffiner un peu en disant cette OPCVM ou ce produit financier, il y a 10% d'économie verte, hein, ce qui existe déjà d'ailleurs, mais là, à nouveau, on revient à la case départ, c'est-à-dire que il faut que les Français arrivent à qu'on les incite à flécher à nouveau leur épargne vers les entreprises, ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui.
Et puis il y a ce problème d'asymétrie d'information qui est peut-être de plus en plus important, notamment asymétrie entre d'un côté les ménages et de l'autre les hedge funds, par exemple, qui ont une capacité de réaction et d'informations très importantes.
Oui, bien sûr, mais les volumes sont pas les mêmes les ménages donc peuvent très bien acheter en direct des actions, hein, on sait ce qui se passe sur un certain nombre de produits PEA, ce que vous mettez dans votre PEA, etc. Et peuvent aussi acheter de manière intermédiaire, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure d'OPCVM où on parlait de fonds, et de ce point de vue-là, ils vont bénéficier de l'information qui leur sera proposée par leur intermédiaire, et donc l'asymétrie d'information peut être considérablement réduite.
La question de la confiance, pour conclure, est importante. Florence Legros, on a vu que le plan de relance, qui devait être annoncé d'abord lundi, puis mardi prochain, sera finalement annoncé jeudi prochain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce plan de relance, et notamment ce qui est très attendu, ce sont des mesures en faveur de l'emploi. Ça va jouer pour recréer cette confiance?
Ah, probablement. Et donc, ce qui est vrai, c'est que là, aujourd'hui, les ménages sont inquiets, mais les entreprises sont extrêmement inquiètes aussi. Donc, on parlait tout à l'heure des reports de charges qui ont été demandés, des prêts garantis par l'État qui ont été demandés, ce qui fait que les entreprises ont eu également ce comportement d'essayer de mobiliser un maximum de liquidités, ce qui est assez étonnant, hein. Et donc, mais les entreprises sont effectivement également inquiètes pour demain. Donc, il y a un certain nombre de secteurs qui sont dans des situations assez catastrophiques. Je vous parle de l'événementiel, le spectacle, l'hôtellerie-restauration. Et donc, les entreprises attendent effectivement beaucoup de ce plan de relance, parce que ça va être très, très compliqué. Les mesures de chômage partiel se terminent là. Et donc, s'il n'y a pas de moyens de soutenir un peu l'emploi, tout le monde est effectivement très inquiet.
Sachant qu'on peut souligner que le gouvernement a annoncé un plan de 100 milliards d'euros, comme en miroir des 100 milliards d'euros d'épargne accumulés pendant le confinement. Un grand merci, Florence Legros, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On va continuer à suivre cette question, évidemment, de la consommation et de l'épargne dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup.
Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho avec Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Les États membres de l'Union européenne se sont entendus le 21 juillet pour une relance à 750 milliards d'euros et pour une mesure inédite, la création d'une dette commune, ce que les spécialistes appellent le moment hamiltonien.
Et oui, si les bons accords ressemblent à une sorte de saumon fumé en raison de la saveur toujours âpre des négociations, le plan de relance européen arraché au bout de 4 jours est assurément excellent, en particulier ce résultat sans précédent, une dette européenne empruntée par la Commission au nom des 27 États membres. Les autorités françaises parlent d'un jour historique, alors le tout est de savoir quel sens lui donner. Et là, les références à l'histoire avec sa grande hache ne manquent pas, que ce soit le plan Marshall salué par Pedro Sanchez, ou bien ce fameux moment hamiltonien avec un grand H également, comprenez un moment fondateur, les bases d'un fédéralisme européen.
Ceci en référence à Alexander Hamilton qui a été le premier secrétaire au Trésor des États-Unis.
Oui, un acteur clé de l'unification des 13 nouveaux États après l'indépendance, car même s'il n'a pas directement rédigé la Constitution, c'est bien Hamilton qui leur a imposé une dette fédéralisée commune et qui les a peut-être par là sauvés de la faillite et de l'implosion, d'où le moment hamiltonien lors d'un dîner avec ses adversaires en juin 1790 qui a entraîné une révolution dans la révolution.
La prospérité d'une nation dépend en premier lieu du commerce, qui dépend entre autres de la volonté d'autres nations à nous prêter de l'argent. La première étape, c'est de créer une dette nationale. Plus grande sera la dette, plus large sera le crédit. C'est pourquoi je vous recommande en tant que président du Congrès d'endosser toutes les dettes prises par les autres États à travers la création d'une banque nationale. Si c'est l'État fédéral qui garantit l'emprunt, les autres seront plus enclins à nous prêter. Et plus grande sera la responsabilité du gouvernement, plus grande sera son autorité.
La dette, donc, ou comment résoudre un problème politique insoluble avec un système économique, c'est ce qui vaut à Alexander Hamilton d'être aujourd'hui considéré aux États-Unis comme un des pères fondateurs, au même titre que Jefferson ou Washington, et à son biopic de triompher actuellement dans une comédie musicale hip-hop à Broadway. En Europe, du coup, certains commentateurs avaient déjà senti dans le premier accord Merkel-Macron pour une dette commune le 18 mai, ce parfum de Dinner Table Compromise où fut décidé l'historique avancée. Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor.
Pour autant, l'accord européen final n'a vraiment eu lieu que lors du sommet à 27. Alors l'analogie avec les États-Unis de 1790 tient-elle vraiment, Xavier ?
Eh bien, Tiffaine, il y a des similarités. Hein. L'importance de la dette, celle de la guerre d'indépendance pour les États américains, c'était 40% du RNB, celle de la relance à venir pour les Européens. Et puis sur le plan politique aussi, deux entités supranationales en construction et des différents étonnamment semblables, détaillait cet été le magazine Forbes, par exemple. Les Virginiens étaient prudents et méticuleux. Ils avaient déjà payé leurs dettes et répugnaient à endosser la responsabilité pour l'incurie d'autres États comme le Massachusetts. Vous voyez qu'on pourrait changer les noms virginiens par allemand et Massachusetts par Italie et l'histoire semblerait la même. Par effet de miroir, on pourrait presque croire que l'intégration financière fera l'Europe fédérale.
Mais il y a une différence importante, c'est que l'émission de dette européenne ne sera que temporaire.
Oui, là, Hamilton parlait de la dette comme d'une bénédiction pour la nation, mais à l'échelle des nations, l'État de grâce sera relativement court pour l'Union européenne. Les remboursements courront sur 30 ans à partir de 2028. Ceci n'empêche pas bien sûr que les futurs eurobonds de susciter des scénarios optimistes. Consolidation de la zone euro, du rôle de la BCE, concurrence avec les bons du trésor américain. Mais ce qu'il faudra observer, c'est l'effet d'engrenage technique et politique, en particulier la fiscalité européenne que voudrait instaurer la Commission et qui doit aider à rembourser les dettes, ce qui sera encore un nouveau Rubicon à franchir. Alors il en va un peu de la dette et du fédéralisme comme de l'œuf avec la poule. Difficile de prédire ce qui sortira à terme de ce moment hamiltonien. Prudent en tout cas, les révolutionnaires américains avaient pris soin d'inscrire sur leur premier billet de 3 dollars des années 1770 « Exitus in dubio est ». L'issue est incertaine.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho. My veins like lightning, I don't even care. Se quitte avec le nouveau titre de London Grammar, Baby It's You. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute d'Entendez-vous l'écho. Demain, on se demandera si l'homo Covidus est aussi rationnel que son ancêtre, l'homo Economicus. Et c'est l'économiste Marie-Claire Villeval qui sera notre invitée.